Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 18h ici à Paris, 12h à Washington.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Mercredi 6 novembre, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. C'est le jour d'après aux États-Unis et déjà, la messe est dite. Donald Trump sera le 47e président des États-Unis. On va tirer dans notre session info et bien les enseignements de cette victoire. Voici le programme, le décryptage dans 10 minutes. Véronique Rigolet, l'onde de choc qui ébranle le monde ce soir.
Oui, un comeback historique qui secoue une Amérique complètement divisée et fait également trembler le monde qui n'a pas oublié le caractère impulsif et imprévisible de Donald Trump dans la gestion des affaires internationales.
À tout à l'heure, Véronique. Juste après, ce sera l'heure du débat du jour où l'on posera cette question. Est-ce d'abord Donald Trump qui a gagné ou Kamala Harris qui a perdu? Pourquoi la candidate démocrate n'a pas su capitaliser après le retrait de Joe Biden? Comment expliquer à l'inverse la montée en puissance de Donald Trump? Réponse donc dans 30 minutes. 18h30, TU Afrique Soir, avec les échos sur le continent de cette élection américaine. 19h10, TU, votre session reportage. Accent d'Europe ce soir en Hongrie s'intéressera à la dernière création de Viktor Orban pour tenter d'étouffer la démocratie dans le pays. Enfin, le grand reportage, là, on sortira un peu de l'actualité américaine. Grand reportage au Liban, où les civils sont pris au piège de l'offensive israélienne. Voilà donc pour le programme. Et pour débuter, c'est le journal de Karine Bellicha. Bonsoir Karine.
Bonsoir, bonsoir à tous. Donald Trump promet un nouvel âge d'or à l'Amérique future, 47e président des États-Unis. Il sera, à 78 ans, le plus vieux président à prêter serment en janvier. Sa victoire ressemble à un raz-de-marée, bien loin d'un scrutin présidentiel annoncé serré. Une victoire d'autant plus confortable que le Sénat a basculé dans le camp républicain. C'est l'histoire d'un comeback incroyable. Après l'assaut du Capitole par ses partisans en 2021, 4 inculpations, une condamnation pénale et 2 tentatives d'assassinat pendant sa campagne. Dans son fief de Floride, célébrant sa victoire devant ses partisans, Donald Trump s'est moqué des craintes de ses adversaires.
Vous savez, on n'avait pas de guerre pendant 4 ans. On a battu l'État islamique en un temps record. Mais on n'avait pas de guerre. Ils ont dit, il va déclencher une guerre. Je ne vais pas déclencher de guerre, je vais les arrêter. Mais c'est aussi une immense victoire pour la démocratie et la liberté. Ensemble, nous allons libérer la glorieuse destinée des États-Unis. Nous allons réaliser le meilleur futur possible pour notre peuple.
Côté démocrate, la gifle est immense. 3 mois de campagne éclair après le retrait de Joe Biden n'auront donc pas suffi à Kamala Harris pour convaincre les Américains. Pas de femme à la Maison Blanche, le plafond de verre est toujours là. Kamala Harris n'a pas encore pris la parole depuis les résultats. Une intervention est annoncée ce soir. La victoire de Donald Trump a été saluée sur les marchés mondiaux. Le Bitcoin a enregistré un record. Le dollar s'est envolé. Wall Street a ouvert en très forte hausse. L'action du groupe Tesla, propriété d'Elon Musk, a grimpé de plus de 10%. Les bourses européennes ont fait le grand 8 entre forte hausse à l'ouverture et repli ensuite. D'ailleurs, l'Europe réagit à la victoire de Donald Trump en ordre dispersé, même si au nom des 27, la présidente de la Commission, tout en félicitant le candidat républicain pour sa victoire, souligne l'importance d'un partenariat entre les peuples, un multilatéralisme qui n'est pas la tasse de thé du futur président américain. L'enthousiasme, en revanche, est de mise en Hongrie, où Viktor Orban salue une victoire pour le monde. Même tonalité en Slovaquie. Robert Fico se félicite de la défaite des idées libérales et progressistes. De Paris, le premier ministre français Michel Barnier a mis en garde les Européens contre le chacun pour soi et plaider pour une stratégie européenne coordonnée. Le retour de Donald Trump au pouvoir était le scénario redouté par les dirigeants des institutions européennes, notamment sur le dossier ukrainien. Il se vante d'excellentes relations avec Moscou, même si le Kremlin se contente aujourd'hui d'affirmer que le futur locataire de la Maison Blanche sera jugé sur ses actes. Donald Trump n'a cessé de promettre de faire signer une paix rapide en 24 heures à l'Ukraine et la Russie. Volodymyr Zelensky dit surtout espérer que son élection aidera l'Ukraine à obtenir une paix juste à Kiev Emmanuel Chaz.
En Ukraine, les félicitations de Volodymyr Zelensky à Donald Trump sont très appuyées. Le président ukrainien parle de victoires impressionnantes et il rappelle la rencontre de septembre aux États-Unis en louant Donald Trump et, je cite, son attachement à la méthode de la paix par la force. Pour Volodymyr Zelensky, ce principe pourrait se rapprocher de ce qu'il nomme une paix juste en Ukraine. Il parle de gouvernance décisive du président Trump et d'espoir de voir un soutien bipartite puissant, sachant qu'au cours de ces deux ans, il y a eu des visites fréquentes de délégations démocrates et républicaines en Ukraine. Volodymyr Zelensky rappelle aussi que l'Ukraine souhaite assurer la paix et la sécurité à long terme en Europe. Du côté de la population, c'est surtout l'inquiétude en raison du caractère imprévisible de Donald Trump et de sa position floue quant au plan pour la victoire ukrainienne. Alors que Donald Trump se targue de pouvoir arrêter les guerres, les Ukrainiens, eux, s'inquiètent de savoir comment ils comptent s'y prendre, car ici, on n'envisage pas de négociations impliquant des concessions territoriales, malgré une situation sur la ligne de front qui s'est considérablement détériorée ces dernières semaines. Dernière inquiétude, enfin, les États-Unis sont le plus gros soutien militaire de l'Ukraine. Les Ukrainiens attendent donc de voir ce qui va advenir de cette aide sous une nouvelle présidence de Donald Trump et un Sénat républicain. Emmanuel Chaz, Kiev RFI.
En Israël, Benjamin Netanyahou a salué un comeback historique de Donald Trump, lui qui est coutumier du fait. Le Premier ministre israélien a décidé hier en pleine guerre et le jour de l'élection américaine de limoger son ministre de la Défense. Yoav Gallant plaidait pour une trêve avec le Hamas afin d'obtenir la libération des otages encore détenus à Gaza. Après plus d'un an de guerre étendue au Liban et la menace d'une confrontation directe avec l'Iran, Benjamin Netanyahou espère l'ouverture d'une nouvelle ère de coopération avec Donald Trump. Nicolas Falaise.
L'administration démocrate qui vient d'être battue s'était enfermée dans une impasse au Proche-Orient. Avec un soutien continu à Israël dans sa guerre à Gaza sous la forme de milliards de dollars d'armes et de munitions, avec des critiques, parfois sévères, adressées à Benjamin Netanyahou et à son gouvernement, mais sans pression suffisante pour imposer un cessez-le-feu. Ce matin, le Premier ministre israélien s'est précipité sur les réseaux sociaux pour féliciter Donald Trump dans un message dithyrambique qui salue un puissant réengagement dans l'alliance entre les deux pays. Avec le retour du républicain à la Maison-Blanche, Benjamin Netanyahou espère une politique américaine aussi favorable que celle du premier mandat Trump. À l'époque, les États-Unis ont déchiré l'accord sur le nucléaire iranien. Ils ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, bafouant le droit international comme les revendications palestiniennes, en épousant totalement la vision de la droite et de l'extrême droite au pouvoir en Israël.
Au Qatar, une petite fenêtre de démocratie se referme. Par référendum, plus de 90% des électeurs ont approuvé l'abolition des élections législatives. 30 des 45 membres du Conseil consultatif avaient été élus par une partie de la population pour la première fois en 2021. Un an avant d'accueillir la Coupe du Monde de football, ils seront de nouveau tous désignés par l'émir du Qatar. Dans la rubrique judiciaire, le footballeur français Benjamin Mendy a remporté son procès contre Manchester City, acquitté l'an dernier d'accusations de viol et agression sexuelle. Le défenseur réclamait près de 11,5 millions de livres à Manchester City pour salaire impayé. Le tribunal a rendu son jugement. Bonsoir Victor Missistrano.
Bonsoir Karine, bonsoir à tous.
Benjamin Mendy devrait donc toucher une grande partie du montant qu'il réclame.
Oui, c'est un nouveau combat judiciaire qu'il vient de remporter. L'an dernier, Benjamin Mendy a été acquitté de l'ensemble des chefs d'accusation de viol et d'agression sexuelle qui pesaient sur lui. À partir de sa mise en accusation à l'été 2021 et jusqu'à la fin de son contrat 2 ans plus tard, Manchester City avait arrêté de lui payer, y compris après ses 5 mois d'emprisonnement, son salaire, soit 500 000 euros mensuels. Quand il n'était pas en détention provisoire, Benjamin Mendy était prêt et désireux de travailler, mais a été empêché de le faire, expose aujourd'hui la juge. Réaction du champion du monde qui, à 30 ans, évolue désormais à Lorient en 2e division française. Après 3 ans d'attente, j'espère que le club agira maintenant de manière honorable en versant les montants dus afin que je puisse enfin tourner la page de cette période douloureuse de ma vie. Benjamin Mendy et Manchester City doivent à présent se mettre d'accord sur une somme, sinon le montant à verser au joueur sera déterminé lors d'une nouvelle audience.
Manchester City qui a lourdement chuté hier soir sur la pelouse du Sporting Lisbonne, 4-1, score final pour la quatrième journée de la Ligue des Champions. Voilà, c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Il est quasiment 18h10 ici à Paris, midi 10 à Washington. On retourne avec vous à la présidentielle américaine, Véronique Rigolet pour le décryptage. Et l'onde de choc après la victoire de Donald Trump.